Invité au lycée français de Madrid, Aurélien Barraud a décliné le déplacement pour une intervention par Internet le 23 mars 2020.
Je vous remercie beaucoup de votre invitation au lycée français de Madrid. Bon, je vous avais répondu bien sûr que je ne pourrais pas venir en chair et en os, d'abord pour des questions de temps, naturellement, mais aussi pour des questions d'engagement écologique. Je crois que ce type de déplacement ne serait plus raisonnable aujourd'hui. Je vous avais promis une petite vidéo et vous m'avez demandé de la réorienter, bien sûr, vers la crise du coronavirus que nous traversons, puisque je m'enregistre aujourd'hui le 23 mars 2020. Je vous comprends et je vais le faire, mais je voudrais en introduction rappeler que je ne pense pas que ce soit très bien de le faire. Je veux dire par là qu'il faut faire attention à ces réactions à chaud. Elles sont vraisemblablement légitimes quand il s'agit de sauver des vies. Voilà, quand on a une idée ou un moyen de faire face à une catastrophe, bien sûr, tous les moyens sont bons. Ça, je comprends, c'est l'urgence, et il faut parfois se mobiliser hors de tout cadre intellectuel préexistant. Mais je ne suis pas moi-même, hélas, pourrait-on dire, médecin urgentiste, et donc je ne pense pas avoir d'idée géniale, puisque je ne suis pas non plus épidémiologiste, pour cerner la bonne manière de faire face à la crise. Et je trouve qu'il est un peu dangereux de voir ici et là les intellectuels s'empresser d'analyser la situation en quelque sorte pour être le premier à avoir vu juste. Vous voyez, pour estampiller comme ça une idée, ce fut la mienne, et pouvoir dans quelques mois ou quelques années proférer le fameux « je vous l'avais bien dit ». Alors c'est sûr qu'à tout essayer, on finit forcément par tomber juste, mais je trouve qu'en termes à la fois d'honnêteté, peut-être aussi d'humilité, et sans doute d'acuité intellectuelle, il est souvent préférable de jouer un peu du décalage ou du décadrage de ce que Jacques Derrida appelait la temporalité paradoxale, autrement dit, ne pas toujours s'engouffrer comme ça dans le chemin qui fait que c'est ce dont il faut parler. Après tout, rien ne nous y oblige, donc je m'y astreins pour répondre à votre demande, mais avec ces réserves, je crois que commenter au jour le jour une situation très complexe, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus sage ni de plus utile. Et peut-être que c'est ça d'ailleurs finalement la véritable leçon, c'est la complexité. Bon, il y a quelques jours peut-être avez-vous lu une étude très sérieuse menée par un groupe de chercheurs de l'Imperial College qui montre au niveau du Royaume-Uni, mais c'est à peu près la même chose pour la France, ce que seraient les différents scénarios possibles. Donc il y aurait le scénario du laisser-faire, bon ils estiment qu'il y aurait environ 500 000 morts si aucune mesure n'était prise. Alors, à moduler, hein, bien sûr, avec des incertitudes considérables, mais c'est un ordre de grandeur qui est issu d'études menées par de véritables spécialistes de la propagation des épidémies. Le deuxième scénario, c'est de mitiger la propagation de la maladie, autrement dit de la ralentir, sans changer le nombre de personnes touchées, de façon à désengorger le système de santé. Alors, ce faisant, naturellement, il y a moins de victimes, mais il se trouve que le nombre de victimes n'est pas énormément inférieur, il est inférieur mais pas du tout d'un facteur 100, parce que même sous scénario de mitigation optimale, les hôpitaux restent quand même engorgés et au niveau du Royaume-Uni, ils estiment qu'il y aurait environ 8 fois plus de personnes nécessitant des soins urgents que de lits disponibles. Donc on ne désengorge pas réellement. Le troisième scénario, c'est le confinement radical. Le confinement radical va vraisemblablement permettre d'endiguer ou d'enrayer l'épidémie. Donc ça, évidemment, je dirais incontestablement, c'est ce qui va faire à court terme le moins de victimes. Mais le problème, c'est que là encore, il faut être subtil. Parce que si on fait ça, il est possible, voire probable, qu'un second pic de l'épidémie surgisse dans quelques mois et qu'elle fasse davantage encore de morts. C'est ce qui s'est passé avec l'épidémie de grippe espagnole à l'issue de la Première Guerre mondiale. Ce n'est pas la première vague, c'est la seconde vague qui, de loin, a fait le plus de victimes. Alors ça, c'est très compliqué, parce que finalement, la question qui se pose, c'est celle de ce qu'on appelle l'immunité de groupe. Vous savez que si on appelle R0 le nombre de personnes contaminées par un malade, alors il y a un certain seuil de la population, de l'ordre de 1 moins 1 sur R0, qui, lorsqu'elle est contaminée, va permettre d'endiguer la propagation de la maladie, même si le pourcentage restant n'est pas contaminé. Donc c'est de l'ordre de 65% vraisemblablement avec le Covid-19. Et ce qui se passe, c'est que si là, on endigue très vite l'épidémie, donc c'est une bonne chose évidemment en termes de mortalité, qui sera très réduite par rapport au scénario précédent, mais le problème, c'est que la plupart des gens n'auront pas été au contact avec l'épidémie, donc n'auront pas été immunisés. Et donc s'il y a un deuxième pic, si par exemple la maladie est saisonnière, mais ça on ne le sait pas très bien à l'heure actuelle, ça pourra engendrer énormément de victimes, sauf à reprendre immédiatement des mesures de confinement dans l'attente d'un vaccin. Mais un vaccin, c'est très long, ça peut prendre 18 mois, on n'est même pas tout à fait certain que ce soit possible. On ne sait pas très bien, par exemple, si le virus va muter ou pas. On ne sait même pas très bien s'il existe une immunité acquise forte, c'est-à-dire si oui ou non, il est possible de retomber malade une fois qu'on a été effectivement touché. Donc vous voyez que la situation est très complexe. Et puis bien sûr, il y a d'autres données. Quels sont les stocks de masques disponibles? Quels sont les stocks de tests disponibles? Parce que ça peut aussi bien sûr orienter une stratégie de santé publique. Les questions se posent d'ailleurs, pourquoi en a-t-on si peu? Mais ça, c'est pas le moment, je trouve, de les poser. Et puis, il y a la question des traitements, parce que tout ce raisonnement-là est fait en l'absence de traitement. Alors là encore, je vous invite à être un peu intelligent, c'est-à-dire critique par rapport à cette effervescence incroyable qu'on voit en ce moment sur les réseaux sociaux à partir de certains traitements possibles et de certaines personnes défendant ces traitements possibles. Je crois qu'il est indispensable de s'extraire de notre fantasme de la starisation. Oui. Il faut vraiment qu'il y ait le professeur un tel, génie méconnu, ou d'ailleurs très bien connu, peu importe, qui propose la solution à laquelle personne n'avait pensé et qui sera notre sauveur. Mais ça se passe pas du tout comme ça, la science. C'est un non-sens absolu. C'est-à-dire qu'il y a toujours des opinions divergentes, il y a comme ça un grand nombre de pistes qui sont esquissées et éventuellement suivies collectivement en fonction de leur intérêt relatif. Et on parle beaucoup ces derniers jours, mais je suis sûr que dans quelques mois, quand on visionnera cette vidéo, bien évidemment, le verdict sera tombé et la question nous apparaîtra comme évidente, ou la réponse à la question nous apparaîtra comme évidente. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup de la fameuse chloroquine. Alors, c'est très très étonnant ça, parce que c'est évidemment une piste prometteuse parmi d'autres. C'est un antipaludique qui est bien connu, hein, qui est ancien, qu'il était à ma connaissance, et bien que n'étant pas du tout spécialiste, assez naturel de considérer comme un candidat thérapeutique dans ce genre de circonstances. Et effectivement, il a été utilisé. Et puis nous verrons bien, il y a des études publiées in vitro qui laissent entendre que les résultats sont plutôt positifs. Bon, c'est formidable, c'est prometteur. Il y a, semble-t-il, venant de Chine, quelques données qui semblent également positives, mais à ce jour, elles ne sont pas encore très correctement tabulées, mises en forme, et on ne sait pas très bien quelle est leur fiabilité. Non pas parce que les Chinois ont mal travaillé, hein, mais parce que ces données ne sont, pour des raisons que je ne connais pas directement disponibles. Et puis, il y a des études faites en France, et la question n'est pas du tout de savoir si on adhère ou pas au style ou à la longueur de cheveux du professeur qui les défend. Moi, j'ai aucun problème avec les hommes aux cheveux longs, hein. Non, il faut être un petit peu sérieux là quand même. Bon, il se trouve que l'étude faite en France est très difficile à utiliser parce qu'il y a beaucoup de problèmes de non-randomisation, de non-protocole en aveugle, de cas écartés pour des raisons qui paraissent arbitraires, d'absence d'un échantillon de tests suffisamment représentatif, de faiblesses statistiques, etc. Et donc, le fait est, scientifique, qu'on le veuille ou non, qu'il est presque impossible de conclure à partir de ce qui a été fait en France. Ce n'est pas un problème d'adhésion ou de rejet de la personnalité de celui qui a médiatisé cette étude. Faisons un peu de science là, soyons un peu raisonnables et rationnels. Donc il y a une piste intéressante parmi beaucoup d'autres, qui est la chloroquine. C'est très bien évidemment de la considérer avec sérieux. À ce stade, aujourd'hui, les études disponibles ne permettent pas de conclure. Ce n'est pas dogmatique, c'est scientifique. Donc il faut continuer la recherche. Si ça marche, c'est génial. Si ça marche pas, peut-être qu'on trouvera autre chose. Peut-être qu'on trouvera rien et qu'il faudra être encore plus rigoureux dans les stratégies de confinement que j'évoquais précédemment. Vous voyez que la véritable erreur, finalement, ici, ce n'est pas de se tromper d'interprétation, c'est de nier la complexité d'une situation. Voilà en tout cas ce qui est mon avis. L'autre point très important, c'est celui de l'exceptionnalité de cette situation. Alors, est-elle exceptionnelle? Oui, je crois que cette situation est exceptionnelle à plus d'un titre. C'est incontestable, on le voit, l'engorgement du système de santé européen, par exemple, qui est déjà à l'œuvre en Italie, qui va sans doute être à l'œuvre un peu partout bientôt, est quelque chose qui est sans précédent dans l'histoire récente. Donc évidemment, c'est exceptionnel. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui confèrent à ce triste événement une singularité, en quelque sorte, un statut de singularité dans l'histoire contemporaine. C'est incontestable et ça appelle manifestement une réaction à la démesure de l'événement, c'est-à-dire gigantesque. La réaction à laquelle aujourd'hui, dans laquelle aujourd'hui nous trouvons est-elle proportionnée ou non, c'est difficile de le dire. Moi, par exemple, je suis un peu étonné que les entreprises non essentielles continuent de fonctionner, alors que l'Italie, à ce jour, les a arrêtées, mais que la France continue de faire travailler, y compris parfois en voyageant en transport en commun des gens, y compris dans des entreprises très secondaires à la vie du pays. Bon, c'est ce qui se passe et c'est l'État dans lequel nous nous trouvons du point de vue des décisions sanitaires. Mais je n'aimerais pas qu'on surjoue cette exceptionnalité. Moi, j'ai vu des images sur les réseaux sociaux, qui sont d'ailleurs souvent très asociaux, où on voit la Terre avec un petit panneau « Planet Earth is closed for a few months ». La Terre est fermée pour quelques mois. Ça, c'est un peu agaçant quand même. Parce que vous voyez, ça, c'est le tropisme de la pensée occidentale que de penser que les crises qu'elles traversent sont des métacrises qui nécessairement impliquent la totalité du monde. Bon, cette crise est très grave. Il ne faut pas la relativiser au sens la prendre à la légère. Ça serait, me semble-t-il, une faute. Mais il faut la relativiser effectivement au sens où on ne peut pas oublier que 2,5 millions de personnes meurent d'infections respiratoires chaque année. C'est gigantesque ce chiffre. Et ça ne fait pas la une du journal télévisé. Au sens où chaque année, 9 millions de personnes meurent de faim. Mais évidemment, ce sont dans des pays pauvres, donc on en parle moins ici. Au sens où chaque année, 9 millions de personnes dans le monde meurent de la pollution. Ce sont des chiffres absolument considérables. Au sens où vraisemblablement, le néocolonialisme engendre un très grand nombre de morts. Loin d'ici, là encore. Donc vous voyez, il faut quand même être un peu, décent. Il se passe quelque chose de grave, ici, pour nous, on est préoccupés, c'est normal, ce sont nos vies, celles de nos parents, de nos amis, notre quotidien est chamboulé, mes étudiants ne peuvent plus aller en cours, etc. Donc, on fait face à l'urgence. Bon, ça nous occupe, ça nous concerne. Mais il ne faut pas non plus que cette urgence nous donne l'impression d'une exceptionnalité universelle qu'elle n'a pas. Et il est maintenant, je trouve, de notre rigueur intellectuelle que de comprendre que le monde est innervé de crises dramatiques. Il y a quelques jours, des criquets qui dévastent, là encore, des pays pauvres en induisant vraisemblablement des épisodes de famine considérables dans, pourrait-on dire, la plus grande indifférence. Bon. D'autant que la crise que nous traversons en ce moment pourrait effectivement devenir aussi une crise absolument catastrophique dans les pays moins riches, eu égard bien sûr à la plus grande fragilité du système de santé, et là ce sera effectivement une catastrophe planétaire. Mais nous n'en sommes pas là, nous verrons bien, et je crois qu'il serait peut-être temps d'évaluer les situations un peu au-delà du prisme de l'immédiateté de leur effet sur les locuteurs, c'est-à-dire en l'occurrence sur nous. Et puis finalement, la seule leçon que l'on peut tirer dès maintenant, avant d'attendre la fin, c'est quand même notre inconséquence. Bon, on ne peut pas raisonnablement tout faire pour détruire l'hôpital et les services publics et s'étonner qu'ils fonctionnent moins bien. Voilà. Donc il y a quand même un moment, on peut aller applaudir à sa fenêtre à 20h les médecins, à deux conditions à mon avis, c'est d'adjoindre au personnel médical tous les invisibles, là, tous ceux qui travaillent en ce moment pour nous, y compris la caissière ou le caissier du supermarché, y compris la nettoyeuse ou le nettoyeur des rues ou des hôpitaux, tous ceux en ce moment qui travaillent doivent aussi, je crois, être salués, et puis surtout, à condition de se rendre compte que nous n'en arrivons pas par hasard à cette situation catastrophique et qu'on ne peut pas soutenir une politique de destruction du commun et effectivement appeler, scandaliser à un meilleur commun lorsque nous en avons besoin. Ça n'a aucun sens sans anticipation. Et l'anticipation, c'est très exactement ce dont nous sommes incapables. On le voit bien sûr avec la métacrise écologique, qui sera bien plus grave, sans aucun doute, que la crise du Covid-19, qui est annoncée par tous les spécialistes compétents, qui fait l'unanimité chez les gens qui ont étudié la question et qui ont les connaissances biologiques, climatiques pour comprendre ce qui se passe. On parle de guerre, on parle de famine généralisée. Je vous rappelle que la famine est déjà en recrudescence depuis plusieurs années, hein, en ce moment, et nous n'anticipons pas. Donc j'espère que la crise que nous traversons actuellement nous donnera le courage intellectuel de voir un peu plus loin et puis de tirer les conséquences. Là, par exemple, pour cette pandémie en particulier, c'est impossible de trouver une cause très nette. Enfin, une cause, on peut remonter la chaîne biologique, mais la cause systémique ne sera jamais absolument claire pour une épidémie. Mais globalement, les spécialistes montrent aujourd'hui que vraisemblablement, la fonte des espaces de vie pour les animaux, qui est incroyablement rapide et qui fait que des espèces jusqu'alors séparées commencent à se toucher, est en train de contribuer effectivement à l'émergence de nouvelles pandémies parce que les agents pathogènes passent beaucoup plus facilement la barrière des espèces. On est en train de comprendre qu'un grand nombre de ce type de phénomènes dramatiques pour la santé publique sont également liés à notre suralimentation carnée. Voilà. Non seulement parce qu'en ingérant de la chair animale, c'est souvent de cette manière que les pandémies se déclenchent, mais aussi parce que, d'une façon générale, l'élevage industriel développe en quelque sorte l'émergence de bactéries qui sont antibiorésistantes du simple fait que, à l'échelle mondiale, la majorité des antibiotiques utilisés sont aujourd'hui utilisés pour le bétail. Bon, donc on voit bien qu'il y a quand même une sorte de monstruosité systémique et que s'il n'est pas interrogé maintenant, eh bien je dirais un peu cyniquement que tout cela n'aura servi à rien. Si on essaye de résoudre, de tirer les leçons de cette crise en faisant des gigantesques stocks de masques, c'est ridicule. Bon, bien sûr, il faut sans doute le faire et on ne peut que se plaindre de l'absence assez étonnante, il faut le reconnaître, de masques et surtout du discours très étonnant qui fait que quand ils ne sont pas là, eh bien, on nous dit que ça ne sert à rien et puis quand ils vont arriver, on nous dira que c'est obligatoire. Il y a une sorte de mensonge généralisé qui est un peu inquiétant. Voilà. Bon, ça, relire Hannah Arendt et l'analyse politique de la systématisation du mensonge, je crois que se joue ici quelque chose d'un peu grave en réalité et d'un peu sinistre. Bon, mais je veux dire que c'est pas comme ça qu'on résoudra ce type de crise. A posteriori, là, il manquait des masques, donc on va acheter des masques. Mais la prochaine crise n'aura pas le même visage. Vous voyez, c'est un peu comme quand on voit qu'il y a des exactions terribles dans un abattoir, on ferme l'abattoir. Mais vous croyez sérieusement que dans l'abattoir d'à côté, il se passe rien? C'est pas fermer cet abattoir qui résout le problème. Il y a globalement un problème systémique qui ne peut avoir de solution que systémique. Et ça, si on ne le comprend pas maintenant, je crois qu'on ne le comprendra jamais. Donc je résumerai la situation en disant, il est temps d'être un peu sérieux. Voilà. Le sérieux n'est pas du côté de ceux qui tentent de sauver à tout prix le monde tel qu'il est. Le monde tel qu'il est va péricliter. Que ce soit pour des raisons évidentes climatiques, nous sommes sur une trajectoire aujourd'hui à plus 5 degrés. On sait qu'au-delà de 3 degrés, c'est l'instabilité alimentaire généralisée. On sait que sur la trajectoire actuelle, à la fin du siècle, 76% de la population mondiale sera soumise à des canicules mortelles. Je ne parle pas d'inconfort là, hein. Je parle de canicules potentiellement mortelles. Bon, donc ça peut être pour des raisons climatiques, ça peut être pour des raisons biologiques, parce que nous avons coupé le contact avec le reste du vivant qui nous était évidemment indispensable, ou ça peut être pour des raisons économiques. Hein, on a vraisemblablement passé le peak oil et sans pétrole, on se trouve très très mal. C'est une bonne nouvelle pour l'écologie, mais ça arrive beaucoup trop tard. Et en plus, d'un point de vue social, si ce n'est pas un désir que la décroissance de l'utilisation des ressources matérielles, mais si c'est imposé factuellement par un manque, alors bien sûr, ça donnera lieu à des situations absolument terrible du point de vue des rapports humains, des rapports sociaux et des conflits entre États. Ça, c'est absolument incontestable. Voilà, donc je pense qu'il est temps de réfléchir un peu, de revoir peut-être notre rapport à la nature. Ce n'est pas une lubie d'écologiste doudingue ou de hippie avec sa marguerite dans la bouche. C'est un problème rationnel factuel. Nous avons fait une erreur scientifique, éthique et esthétique en pensant que la nature était une simple ressource. Voilà. Ça, c'est, je crois, ce qu'il faut méditer aujourd'hui. Sortir de la réification du vivant et d'ailleurs du colonialisme factuel et intellectuel qui concerne également les autres humains et pas seulement les animaux, penser ce qu'anticipation veut dire et comprendre aussi qu'une crise peut exister quand elle ne nous touche pas directement. J'ai donné l'exemple tout à l'heure du nombre incalculable de morts à l'échelle planétaire qui passe dans le bruit de fond pour nous, dans les pays occidentaux, alors qu'il est littéralement impensable. On n'a pas besoin d'attendre le Covid-19 pour savoir qu'un enfant meurt de faim toutes les 5 secondes. Donc ce sont des choses absolument monstrueuses qui sont d'ores et déjà là. Et du point de vue écologique, c'est pareil. Certains disent « attention, attention, on va dans le mur ». Mais on est déjà dans le mur. On a déjà perdu 60% des espèces d'animaux sauvages en 40 ans. On a déjà perdu les 2/3 de la biomasse dans la branche du vivant qui comporte le plus d'individus et d'espèces. On a déjà perdu 60% des forêts depuis l'ère pré-agricultrice. Donc nous sommes déjà dans la catastrophe. Ce n'est plus à ce stade un problème d'anticipation, c'est un problème de constat. Voilà. Donc j'espère que nous allons devenir un peu sérieux, que nous allons interroger également cette culture de la gestion, qui fait qu'aujourd'hui, finalement, on ne cherche plus à faire, on cherche à satisfaire à des indicateurs arbitraires que nous avons inventés. C'est absolument consternant et c'est une gangrène. Et moi, je crois qu'en fait, c'est là un des principaux responsables d'un des grands nombres de tourments que nous traversons. Et je vous invite là aussi à y réfléchir et à faire preuve de votre sagacité intellectuelle face à cette culture littéralement gestionnaire qui fait, si vous voulez, que ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas de réussir une découverte, ce n'est pas de réussir une guérison, ce n'est pas de réussir un progrès, ce n'est pas de réussir quelque chose qui a du sens en tant que tel. Ce qui compte, c'est de donner l'illusion de faire, c'est de cocher la bonne case dans le tableau Excel qui sera rempli par le manager, à tous les niveaux, je dirais, jusqu'à la présidence en quelque sorte. Et je trouve que nous sommes arrivés à un niveau d'aberration qui ôte le sens même de ce vers quoi nous pouvons désirer aller et de ce pourquoi nous agissons. Et le problème qui est consubstantiel à celui-là, si vous voulez, c'est le prisme unique qui est appliqué sur le réel. C'est croire qu'on peut tout déchiffrer du réel avec une grille de lecture simple, quelle qu'elle soit. Et ça ne marche jamais, c'est à la fois une offense au réel et une offense à la cause que vous tentez de servir en réduisant la complexité à cette atrophie. Voilà en tout cas ce que je crois. Et pensez que le but, ce n'est pas simplement de ne pas se faire prendre. Aujourd'hui, on a l'impression que finalement, le jeu dans lequel nous nous trouvons consiste à passer à travers les mailles du filet. On voit que quelqu'un, un homme ou une femme politique qui fait une déclaration hasardeuse dans une émission de télévision, de radio ou à la presse, hop, sa carrière est foutue parce qu'elle s'est fait prendre, elle a dit le truc qu'il fallait pas dire. Alors qu'en réalité, personne n'est dupe. On sait très bien ce qui était su et ce qui n'était pas su, on sait très bien pourquoi nous en sommes là, et on sait très bien, non pas du tout en un sens complotiste ou conspirationniste, hein, absolument pas. Simplement, d'un point de vue rationnel, factuel, il est tout à fait clair de suivre l'évolution politique et économique qui nous mène jusqu'à l'état du monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et donc, le but, c'est pas simplement d'essayer de prendre ou de ne pas prendre quelqu'un à partir d'un lapsus ou d'un mot comme ça qui a fusé dans une conférence de presse. Ce n'est pas sérieux, ça. Maintenant, je crois qu'il faut travailler la véridicité de la crise, faire preuve d'un peu d'honnêteté, mais aussi peut-être d'ailleurs de radicalité, parce que le mot radical est souvent employé dans le contexte contemporain d'une manière péjorative, mais en réalité, la radicalité, étymologiquement, c'est pas du tout péjoratif, c'est au contraire l'acuité de la compréhension du processus, et on ne peut pas considérer qu'un certain nombre d'actions, de dénonciations de l'état catastrophique du réel, fût-elle un tout petit peu musclée, relève d'une insupportable violence, alors que le système actuel qui est en train littéralement d'annihiler la vie sur Terre, puisque nous sommes dans la 6e extinction massive, avec ou sans le Covid-19, lui en revanche, relèverait en quelque sorte de l'état naturel du monde. Ce n'est pas vrai, il faut repenser la contingence et il faut travailler les hiérarchies, en particulier les hiérarchies de la liberté, les hiérarchies de la violence, les hiérarchies de la radicalité. Et je pense qu'il s'agit ici simplement d'être sérieux pour un commun acceptable, vivable et sensé. Merci.
Mmh.
Vous écoutiez Aurélien Barreau, astrophysicien et professeur à l'université Grenoble-Alpes, enregistré le 23 mars 2020.